Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصل وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 8 Ordibehesht, 1401 du calendrier iranien, 28 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire à l'occasion de la journée mondiale de Quds. Les hauts responsables de l'Iran et de la Chine ont une volonté sérieuse de promouvoir les liens stratégiques à long terme, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Grand rassemblement à la mosquée Al-Aqsa. 250 000 fidèles assistent à la prière collective de mercredi soir. La guerre en Ukraine, Kiev fait part d'une progression russe à l'Est. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Lors d'une rencontre mercredi à Téhéran avec le général Wei Feng, ministre de la Défense de la République populaire de Chine, le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé: nous poursuivons ces relations stratégiques indépendamment des développements internationaux et basées sur la confiance politique mutuelle et la mise en œuvre réussie du programme de coopération globale de 25 ans est une priorité à cet égard. Se référant au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015, le président iranien a déclaré que les Américains voulaient mettre la pression la plus intense sur l'Iran en violant l'accord. Mais aujourd'hui, ils admettent officiellement qu'ils ont lamentablement échoué à exercer une pression maximale contre la République islamique d'Iran. À l'approche de la journée mondiale de Quds, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa pour une prière en congrégation. Les médias palestiniens ont estimé le nombre des participants à 250 000 réunis dans un geste d'unité au milieu des récentes profanations israéliennes de ce lieu saint. Après les prières, les fidèles ont scandé des slogans contre le régime israélien et ils ont condamné le régime sioniste pour ses violentes répressions contre les Palestiniens en plein mois de Ramadan à la mosquée Al-Aqsa. Le rassemblement a eu lieu malgré les avertissements israéliens. Des sources palestiniennes ont qualifié la prière collective dans la mosquée Al-Aqsa de sublime et de sans précédent. le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la tenue des cérémonies de la Journée mondiale de Quds est une étape majeure pour contrer les complots du régime sioniste contre les musulmans. Hossein Amir Abdullahian a fait ses remarques lors d'une réunion avec le nouveau président du Parlement irakien, Mohammad al-Halboussi. Il a déclaré que le régime sioniste est une source de menace pour toute la région. Le chef de la diplomatie iranienne a également réitéré le soutien de Téhéran au processus politique en Irak, affirmant qu'un Irak fort garantit la paix et la sécurité régionale. Il a ajouté que la République islamique d'Iran soutient la stabilité de l'Irak, considérant la sécurité de l'Irak comme la sienne et vice-versa. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a également eu une conversation téléphonique avec son homologue malaisien. Il a déclaré que le comité spécial de l'Organisation de la coopération islamique doit discuter de la question de la Palestine au niveau des ministres des Affaires des pays membres. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré l'opposition catégorique de la République islamique d'Iran à la normalisation des relations de certains pays arabes et musulmans avec le régime sioniste. En Ukraine, malgré de nombreuses difficultés, l'armée russe continue à progresser. Mercredi 27 avril, lors de son rapport matinal, le ministre ukrainien de la Défense a annoncé la prise de plusieurs localités dans le Donbass et la région de Kharkov. Le ministre ukrainien de la Défense a prévenu que l'extension de l'opération militaire russe vers l'Est entraînera des destructions et des pertes douloureuses. Il a déclaré que la Russie a déjà rassemblé ses forces militaires pour une offensive à grande échelle dans l'Est de l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense a indiqué que son pays fait face à des semaines extrêmement difficiles alors qu'une nouvelle offensive russe se profile. Moscou se concentre désormais sur l'Est et le Sud de l'Ukraine alors que la guerre entre les deux voisins entre dans son troisième mois. La Russie a capturé plusieurs villages dans l'est de l'Ukraine et cherche à prendre le contrôle total de la région du Donbass. Et enfin, plusieurs villes à travers la France souffrent de pannes d'Internet au milieu de rapports d'attaques coordonnées sur l'infrastructure de communication du pays. Le ministre français du numérique a déclaré que les câbles Internet ont été coupés en Île-de-France, affectant les réseaux fixes et mobiles. Cédric O indique en outre que les opérateurs de télécommunications travaillent pour rétablir le service. Les opérateurs ont signalé que des attaques nocturnes sur des câbles à fibre optique ont provoqué les pannes. Le 7 août 1979, quelques mois à peine après la victoire de la révolution islamique en Iran, le fondateur de la République islamique d'Iran, le défunt Imam Khomeini, a déclaré le dernier vendredi du mois béni du Ramadan de chaque année comme la journée mondiale de Quds, au cours de laquelle les musulmans du monde entier s'uniraient en solidarité contre Israël et pour soutenir les Palestiniens. Après la bataille épée de Rots en 2021 et les récents événements survenus avant et après le mois béni de Ramadan 2022 à Rots et dans tous les territoires occupés palestiniens, la tenue des manifestations et des cérémonies de la Journée mondiale de Rots s'avère être d'une très grande importance. À cette occasion, au seuil de la Journée mondiale de Rots 2022, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré mardi 26 avril que la révolution iranienne s'est fondée sur un retour à l'islam véridique et un attachement impérissable à la cause palestinienne. L'honorable Ayatollah Khamenei a salué le combat des Palestiniens et a affirmé que les grands sacrifices dont font preuve en ce moment les Palestiniens sont des facteurs parfaitement nouveaux, ce qui fait que la Journée mondiale de Rots de cette année 2022 devra être, elle aussi, différemment célébrée. Selon le leader de la révolution islamique, à l'occasion de cette journée, il faudrait de la solidarité, de la sympathie et de la compassion avec le peuple opprimé, mais jamais mis au pas de la Palestine. Il faut en sorte que le peuple de la Palestine sente ce soutien et cette solidarité. Le leader de la révolution islamique a qualifié de forte et puissante la nation palestinienne, bien qu'elle soit opprimée. Les jeunes Palestiniens ne permettent pas que la cause palestinienne soit oubliée, a-t-il déclaré, ajoutant que la Journée mondiale de Rots est une bonne occasion pour exprimer sa sympathie et solidarité avec le peuple opprimé de la Palestine. L'honorable Ayatollah Khamenei a ensuite critiqué le bilan des pays musulmans face à la question de la Palestine. Malheureusement, les pays musulmans agissent mal et ils refusent même de faire la moindre allusion à la question palestinienne. Certains d'entre eux croient que c'est en établissant des liens avec les sionistes qu'ils peuvent aider la Palestine, alors que ce n'est qu'une grande erreur. L'Iran renouvelle sa solidarité avec la Palestine à l'occasion de la Journée mondiale de Rots. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a publié une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de Rots, qui tombe le dernier vendredi du mois béni du Ramadan. Dans la déclaration qui a été publiée en arabe, le porte-parole de la diplomatie iranienne a réitéré que la solution fondamentale à la question palestinienne est le retour des réfugiés palestiniens dans leur patrie et la tenue d'un référendum général en Palestine. Cette année, nous accueillons la Journée internationale du Rots au dernier vendredi du mois béni du Ramadan, dans des circonstances où la libération de la mosquée Al-Aqsa et de la Palestine occupée des mains de l'ennemi sioniste et raciste est devenue plus nécessaire et plus importante que jamais, alors que Rots et la Palestine sont devenus le centre de solidarité parmi tous les musulmans et les peuples libres du monde, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, les musulmans du monde appellent d'une seule voix à la nécessité de libérer la Palestine en tant que priorité pour les nations musulmanes. Et les efforts de normalisation n'ébranlent pas la volonté solide des peuples vivants et conscients. Par conséquent, tous les pays musulmans sont tenus d'assumer leurs responsabilités en soutenant la lutte du peuple palestinien et en lui fournissant tous les moyens de force et de protection. Les gouvernements et les organisations internationales ne peuvent pas non plus être indifférents à ses justes exigences et se soustraire à leurs responsabilités juridiques et humanitaires dans ce domaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reproché aux pays musulmans de normaliser leurs relations avec le régime d'Israël, qualifiant cette décision de grosse erreur. En prévision de la prochaine des journées internationales du Quds, le leader de la révolution islamique, lors d'une réunion avec un groupe d'étudiants et de représentants d'associations étudiantes à Téhéran, c'était mardi, hier, a déclaré que la journée de Quds de cette année est différente des autres années. Les Palestiniens ont fait de grands sacrifices pendant le ramadan de l'année dernière et cette année, le régime sioniste commet les pires des crimes et les États-Unis et l'Europe les soutiennent, a-t-il précisé également. Il a salué le peuple palestinien opprimé mais puissant qui a empêché la question palestinienne de sombrer dans l'oubli par sa résistance et ses sacrifice. Dans le même temps, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, aussi a eu un discours. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a déclaré, c'était lors de sa participation au forum d'Al-Quds, que la cause palestinienne reprend vie et bénéficie de plus de participants et de combattants prêts à se sacrifier pour elle. Seyyed Hassan Nasrallah a souligné que la stratégie de l'ennemi consistait à miser sur le temps et sur le désespoir des peuples, à croire en la cause palestinienne, notant que ce qui se passe aujourd'hui est exactement le contraire. Et grâce à la foi du djihad et à la perspicacité des pays de l'axe de la résistance, de ses forces et de ses peuples. Et dans le même temps encore, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que la journée d'Al-Quds survient cette année sous l'impact de grands événements vécus dans les lieux sacrés d'Al-Quds islamique et chrétienne. Ismail Haniyeh a souligné que les opérations héroïques ont marqué des points importants, dont le plus important est le choix, et que le choix de la résistance revient exclusivement à un peuple et non à une faction ou à une élite. Et dans le même temps, il y a eu des manifestations de soutien au peuple palestinien ailleurs dans le monde. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse, un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerostin, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité, je crois qu'il est Maître Atem.
Vous l'avez fort bien dit, M. Dortiguier. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Elie Atem. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, aux téléspectateurs, et bien entendu à M. Dortiguier aussi.
Maître Atem, je viens de lancer le sujet, en fait. Et la question palestinienne reste toujours d'actualité, reste toujours, en fait, en dépit, en fait, de tous ces agissements, reste toujours, en fait, d'actualité, reste toujours l'une des premières priorités depuis l'Iran jusqu'au Liban, en fait, M. Atem. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien entendu, parce que vous savez quand même, on ne peut pas oublier une situation qui perdure depuis l'occupation donc de la Palestine et la création d'une entité artificielle imposée qui a occupé le territoire palestinien et qui a provoqué un déplacement, de population, donc de leur propre territoire. En fait, cet exode donc, de Palestiniens qui cause un problème, non pas simplement aux Palestiniens, mais à l'ensemble des pays de la région. Et aujourd'hui, encore beaucoup plus qu'autrefois, c'est que quand on condamne l'occupation d'un pays, aujourd'hui, la société internationale est en train, par exemple, de condamner l'intervention ou soi-disant l'occupation de l'Ukraine par la Russie, et on ne dit rien sur l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste, et qui a donc provoqué l'exode d'un nombre très important, qui est beaucoup plus de la moitié, le trois quarts, je dirais, de la population donc palestinienne. Et donc on fait fi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la résistance palestinienne est considérée par certains pays occidentaux comme étant en fait des actes terroristes. En revanche, la résistance d'Azov et de certaines milices également en Ukraine est considérée comme un mouvement de résistance nationale. Donc aujourd'hui, je pense que l'importance c'est que de cette action actuelle de la part donc, de la résistance, de la vraie résistance du peuple palestinien, et je ne parle pas simplement donc, des dirigeants politiques dont certains ont cédé à la pression du lobby sioniste, et exprime cette volonté du peuple palestinien de retrouver son indépendance et de retourner à son pays. Et c'est en fait leur souci principal, et ils peuvent le faire dans ce contexte, je dirais, international, qui leur est beaucoup plus favorable vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Mais si vous remarquez une chose, c'est qu'en Occident, malheureusement, on fait tout pour étouffer cette action de la part du peuple palestinien.
Monsieur Tortillier, vous avez entendu Maître Eliatem. Oui. Quelle est votre lecture des faits? Pourquoi est-ce que vous estimez, en fait, tout comme Maître Eliatem, qui a cette volonté en Occident, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure par Eliatem, cette volonté d'étouffer la voix du peuple palestinien?
En effet, yes. Cette volonté est inscrite depuis la proposition que la Russie avait faite, vous savez, avec Gromyko en 1947, de créer un État juif, c'est-à-dire qu'elle est à l'encontre, justement, même du mandat britannique qui essayait d'organiser, disons, la coexistence de plusieurs communautés. Il n'était pas fondé sur la justice, mais il était quand même une moins grande injustice que l'imposition d'un État qui a, disons, reposé sa force, sa légitimité sur l'exil de la population qui a été tirée, qui a été, disons, extraite de ses lieux de naissance. Nous avions, à la fin de la guerre, nous avons connu la même chose après la conférence de Potsdam, quand il s'est agi de faire quitter des territoires allemands à des populations qui l'occupaient depuis des siècles. Voyez-vous, ça a été disons, une faute contre, pas l'humanité, contre le droit des peuples. Vous avez ensuite donc la question sioniste, bien sûr. Cette question sioniste, elle est, elle se heurte, bien sûr, à la réalité du peuple palestinien, mais elle est consolidée, cette domination, par l'attitude des grandes puissances. Que ce soit une attitude de collaboration ouverte ou une attitude, disons, de tolérance. Voyez-vous, les intellectuels palestiniens, malheureusement, ne font pas en Occident, à notre avis, l'effort nécessaire pour faire connaître à notre nation, à la européenne, disons, la véritable histoire de la Palestine. Autour de moi, je vois par exemple des étudiants d'un certain âge, quand même déjà, qui ignorent tout de la déclaration de Balfour, qui ignorent tout de l'entre-deux-guerres, qui ignorent vraiment les massacres de Deir Yassin et autres. Tout ceci, vous savez, est connu des spécialistes, comme on dit, mais est caché au peuple, voyez-vous. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on dise des mensonges, on ne dit rien. Alors, c'est encore pire. C'est-à-dire, on enfonce les populations ici, étudiantes, des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais non. Et on les enfonce dans des diplômes, enfin, dans une situation où ils ne sont pas capables de juger et d'apprécier les sacrifices du peuple palestinien. Voyez-vous, on représente ceci à droite, ici on le représente comme une sorte de mouvement islamique, voyez-vous. On nie, par exemple, l'existence des chrétiens en Occident, en Orient. Ceci, alors, est manifeste. Vous n'imaginez pas le degré d'ignorance, enfin, le degré de mensonge, mais de mensonge par ignorance, justement, voyez-vous, dans lequel notre population est tenue. Et donc, ceci, à mon avis, est dans toute l'Europe. Je crois que... Je crois que malheureusement, le peuple palestinien, et je ne dis pas destiné, le mot serait trop dur, mais est sur la voie d'un sacrifice permanent. Et les paroles du guide suprême sont tout à fait justes. D'abord, il faut réveiller les chefs, les populations musulmanes, leur élite surtout, en Orient, qui ne se laissent pas, disons, fascinés par le serpent sioniste.
Maître Hatem, pour revenir en fait sur ces déclarations du leader de la révolution islamique d'Iran, comme l'a dit M. d'Ortiguier, dans le contexte actuel où il y a cette escalade entre Palestiniens et des régimes israéliens, surtout à Al-Quds et en Cisjordanie, dans le contexte actuel qui est marqué également par des manifestations de soutien au peuple palestinien ailleurs dans le monde, le leader de la révolution islamique a qualifié de grosse erreur cette normalisation de certains pays musulmans avec le régime israélien. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Hatem ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que surtout, c'est qu'il faut rappeler que, en fait, cette résistance, je dirais, à l'occupation donc, de la Palestine, a toujours été faite, il faut dire les choses telles quelles, par les chrétiens, en particulier les chrétiens palestiniens. Et là, il faut aller peut-être au-delà même de la création donc, du mouvement sioniste mondial, l'OSM. Et ce qu'il faut rappeler, c'est les écrits de Azouri et donc des autres, en fait, chrétiens palestiniens qui avaient alerté l'opinion publique aussi bien palestinienne qu'internationale, et ils n'avaient malheureusement pas l'écho chez ou dans la population musulmane palestinienne. Pour quelle raison ? Parce que cette population était beaucoup plus, je dirais, attachée ou sous la coupe de l'Empire ottoman à l'époque. Mais Azouri, par exemple, a vu ce projet migratoire, d'immigration massive qui venait des différents pays de l'Est, en particulier de la Russie, de population ashkénaze qui venait s'installer en Palestine petit à petit, dans l'objectif d'ailleurs de créer un État. Et ça, c'était avant l'OSM, c'était les fameuses, ce qu'on appelait les Biloïm. Les Biloïm, c'est ces premières personnes qui voulaient s'installer là-bas. Et il a fallu vraiment beaucoup de temps. Il a fallu du temps surtout à Georges Antonios, qui avait aussi un autre chrétien, et qui avait, je dirais, fait une certaine, pas pression, mais je dirais, il a eu une influence sur le mufti de Jérusalem pour le pousser à l'époque de pouvoir réagir à cette situation. Et c'est ce qui explique malheureusement également la situation au Moyen-Orient actuellement et cette normalisation donc, chez les musulmans, y compris d'ailleurs dans la population israélienne, de normaliser avec l'entité sioniste. En revanche, si nous remarquons bien, ce sont les pays où se trouvent les chrétiens qui sont beaucoup plus alertés sur le danger sioniste, où il y a une opposition à cette normalisation, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit même, je dirais, en Égypte, chez les Coptes, mais également en Iran, où quand même, il y a des communautés chrétiennes donc, qui font même partie également donc, du Parlement. Donc, il y a cette prise de conscience de ce danger, en fait, sioniste, et puis de cette situation alarmante. Et vous verrez également le discours du père Emmanuel, donc, qui est très connu, Moussalem, pardon, le père Emmanuel Moussalem, un prêtre également chrétien, donc qui paradoxalement, soutient le Hamas parce qu'il trouve que le seul groupe qui aujourd'hui représente la véritable résistance palestinienne est le Hamas. Contradictoirement, c'est un parti ou un mouvement islamique qui est soutenu d'ailleurs par des chrétiens palestiniens parce qu'ils se rejoignent sur la compréhension et la prise de conscience en fait de ce jeu sioniste qui a pour objectif la déportation de l'ensemble des Palestiniens et je dirais cette extermination progressive de la population palestinienne avec en laissant une petite fine je dirais partie de la population mais sous la coupe, sous la soumission totale au pouvoir sioniste.
Monsieur Tortillier, je viens de le dire tout à l'heure, s'agissant en fait de la prise d'opposition de Saïd Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, il a déclaré que la stratégie, là, je cite Saïd Hassan Nasrallah, la stratégie de l'ennemi consistait à miser sur le temps et le désespoir des peuples, à croire en la cause palestinienne, notant que ce qui se passe aujourd'hui est exactement le contraire. Saïd Hassan Nasrallah dit également que l'axe de la résistance devrait également être appelé l'axe d'Al-Quds, à juste titre, car Al-Quds est, là je cite toujours Saïd Hassan Nasrallah, est la boussole centrale et unificatrice. Monsieur Tortillier, il n'est pas question pour l'axe de la résistance d'abandonner la Palestine, le peuple palestinien et la cause palestinienne, n'est-ce pas, Monsieur Tortillier?
En effet, le symbole de Al-Quds, évidemment, est un symbole, j'allais dire, d'un foyer, c'est une unification spirituelle. Dire, mais très brièvement, combien j'approuve ce qu'elle vient de dire Maître Athènes sur le rôle héroïque et efficace des chrétiens en Orient pour lutter, pour dénoncer justement la nature du sionisme. Quand j'ai eu l'occasion en 69 de regarder la bibliothèque qui venait de l'Élysée du général de Gaulle, j'ai remarqué qu'il y avait un livre de Pierre Épaisse qui s'appelait « La Bible des peuples martyrs » que le général avait lu, je crois, aux trois quarts. Je le voyais d'après le livre qui était découpé. Et alors, ceux qui travaillent autour de moi ont eu tellement honte de voir ce qu'avait lu le général, vous voyez, qu'ils l'ont vendu sur les quais pour ne pas que ça figure dans sa bibliothèque. Bien, je dis ceci, peut-être, je ne dis pas avant ma mort, enfin, je ne pensais pas le dire, mais c'est l'émotion que me cause ce que dit Maître Athènes qui me le fait dire. Je tiens à témoigner de ceci publiquement. En effet, le Al-Quds devrait être, disons, pour ceux qui sont des vrais croyants, c'est-à-dire des gens simples qui écoutent simplement ce que dit leur raison, la raison métaphysique, c'est-à-dire la raison supérieure. La raison ne consiste pas simplement à appuyer sur un tiroir caisse, consiste aussi à réfléchir, à avoir des concepts. Bien, la lecture le permet. Malheureusement, nos contemporains, y compris dans les populations musulmanes d'Europe, lisent moins, voyez-vous, vivent dans une sorte de présent, je ne dis pas un présent perpétuel, voyez-vous, avec la faiblesse, disons le manque de courage du clergé, proprement chrétien, et les instructeurs musulmans, disons, l'histoire, ils ne veulent pas, disons, affronter des forces hostiles. Ils parlent ne veulent pas lutter comme les martyrs, voyez-vous. C'est pour eux une histoire ancienne. Or non, de témoigner de sa foi, témoigner de son existence de peuple, voyez-vous. Et le rappel, je ne peux pas le dire autre chose, le rappel à l'ordre, le guide suprême, est nécessaire. Et il faut que les musulmans en particulier sortent d'une certaine léthargie, voyez-vous. Disputer entre eux, je vois qu'elle est essentielle, voyez-vous, les disputes sont terrestres, mais l'essentiel, on doit en rendre compte au tribunal suprême. Voilà ce que je dis comme professeur de philosophie, bien sûr. Mais une dernière chose, c'est qu'une politique sage est une politique qui s'adresse à un peuple libre, c'est ce qu'a dit Kant au XVIIIe siècle, et là, il n'y a pas de peuple libre en Palestine. Les Palestiniens sont dans une prison, voyez-vous, cette prison a été faite avec des gens socialiste. Moi, j'avais un de mes amis qui est devenu un grand économiste et qui était scout sioniste et membre du Parti communiste. Bon, à l'époque, c'était quelque chose qui montrait un progressisme, si vous voulez. Et tout ceci a été effacé par le sang des Palestiniens. Et ce sang, malheureusement, je le crois, continuera de couler. Il coulera, bien sûr, à cause des adversaires du peuple palestinien. Ça, c'est normal. On ne peut pas empêcher un diable, voyez-vous, d'agir. Mais malheureusement, les grands responsables seront les musulmans et les chrétiens qui n'auront pas, disons, fait un acte d'intelligence, un acte de foi. Parce qu'un acte de foi est d'abord un acte d'intelligence, de comprendre quel est l'adversaire principal, d'arrêter avec les simagrées de je ne sais quel accord d'Abraham ou autre, voyez-vous. Laissons Abraham tranquille. Laissons Abraham chez Abraham, voyez-vous. Abraham n'a rien à voir avec ces choses-là. C'est même une insulte à la splendeur de son nom que de le mêler à des accords pareils, voyez-vous. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je le dis comme un Français qui a connu cette période-là, ces périodes. J'ai cité l'exemple de De Gaulle, voyez-vous. Le pauvre De Gaulle qui a été finalement victime des quelques mots qu'il a dit en 67 pour condamner l'entité sioniste, voyez-vous. Et je dois dire que la droite française, comme la gauche française, la droite surtout aujourd'hui, est extrêmement pliée devant les ordres israéliens. On l'a vu avec la candidature de M. Zemmour, etc., qui prétend nous dire qu'il n'y a pas de problème palestinien. Voilà, ils veulent effacer complètement ces gens-là. Et ils l'effaceront. Je crois que justement, dur sera la Chine.
Maître Atem, il y a eu en fait cette prise de position du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, qui dit que voilà, la résistance dans sa nouvelle vague a confirmé que la question d'Al-Quds et d'Al-Aqsa, mais aussi le droit au retour des Palestiniens et la question des détenus ne peuvent pas être résolus à la table des négociations, Maître Atem.
Bah écoutez, la table de négociation peut-être, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il y a une emprise, il faut dire, internationale sur cette question, c'est-à-dire sur la question palestinienne, sur le droit du retour du peuple palestinien à son propre territoire, dans son propre pays, après avoir été déporté. Et surtout, comme l'a très bien souligné M. Dortigay, surtout après les massacres qui ont eu lieu à Deir Yassine et puis dans d'autres endroits également en Palestine occupée. Ça, c'est premier point. Deuxièmement, également, il y a une chape de plomb qu'on la voit d'ailleurs en Occident et aussi même en France. On le voit, c'est qu'en France, malheureusement, également le lobby sioniste est si puissant que la droite dite nationale est obligée de se soumettre, de se plier, de se mettre à genoux pour pouvoir avoir accès au chapitre et aujourd'hui il y a la soumission malheureusement totale à M. Zemmour qui pour lui le peuple palestinien n'existe pas, c'est la question même d'Israël, vous vous souvenez cette fameuse boutade une terre sans peuple pour un peuple sans terre, qui était tout à fait complètement, je dirais, une propagande qui a été faite pour justifier la création donc de l'État d'Israël. Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, c'est que, d'ailleurs, je ne comprends pas M. Éric Zemmour en France qui parle de réimmigration et si c'est vraiment sincère. Dans cette idée de réimmigration, il va falloir qu'il commence quand même à admettre qu'il faut commencer par admettre le principe de réimmigration de ces différentes populations ensemble du monde et pour s'installer en Palestine et pour en fait déporter les autochtones palestiniens de leur propre territoire et après, deuxième temps, penser à ce phénomène de réimmigration en France et d'ailleurs. Et donc, je vous dis, malheureusement, il y a une chape de plomb, il y a une difficulté au niveau international. Surtout, il faut le reconnaître, que les médias et les pouvoirs ont totalement peur, sont totalement soumis à cette pression également, donc des lobbies pro-israéliens, des lobbies sionistes en Europe et en France et sur la scène internationale. Alors, d'une manière aussi contradictoire, parce que vous voyez, il y a même des sionistes qui ne sont pas juifs, qui sont musulmans, qui sont des chrétiens, je parle aux États-Unis, vous savez, les néoconservateurs. Et à contrario, et c'est ça qui est assez frappant, aujourd'hui, il y a un courant d'Israéliens, mais de juifs israéliens qui sont beaucoup plus compréhensifs de cette situation que je viens de décrire que les autres qui pensent que... ils veulent, si vous voulez, en quelque sorte plaire à ce lobby sioniste et se plier donc devant lui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Maître Atem.
J'ai été très long, je pense.
Merci. Pardon. Nous sommes arrivés en fait à la fin de notre émission. Merci infiniment d'avoir participé à notre émission Liatem depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Pierre Dortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Une mosquée chiite du nord de l'Afghanistan a été la cible d'un attentat jeudi dernier. On déplore au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Une autre explosion a tué 4 personnes à Kunduz. Au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées jeudi dernier dans un attentat du groupe takfiriste Daesh contre une mosquée chiite dans le nord de l'Afghanistan. L'attentat intervient 2 jours après une attaque contre une école d'un quartier chiite à Kaboul. 11 personnes sont décédées sur place et une autre sur la route de l'hôpital, ce qui fait 12 morts jusqu'ici, a déclaré à l'agence France Presse Ahmad Zia Zindani, porte-parole du service de santé de la province de Balkh, dont Mazar-e-Sharif, lieu de l'attaque, est la capitale. Au total, 58 personnes ont été blessées, dont 32 grièvement, a-t-il précisé. Cette attaque a été revendiquée par l'organisation takfiriste Daesh dans une déclaration sur son chaîne Telegram. Le groupe takfiriste ultra-radical a affirmé avoir placé un colis piégé à l'intérieur de la mosquée et l'avoir activé à distance au milieu des fidèles rassemblés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité ne pouvait être indépendamment vérifié, montrait des victimes emmenées vers les hôpitaux depuis la mosquée Sedokan, où le sol était jonché de morceaux de verre. Par ailleurs, au moins 4 personnes ont été tuées et 18 autres blessées à Kunduz, dans le nord-est du pays, dans l'explosion d'une bombe placée dans un vélo, au passage d'un véhicule transportant des civils mécaniciens travaillant pour une unité militaire talibane, a indiqué à l'agence France Presse le porte-parole de la police provinciale. Et à Kaboul, un engin explosif placé en bord de route a blessé 2 enfants, selon la police de la capitale. Les talibans ont arrêté un membre présumé du groupe takfiriste Daesh, accusé d'avoir organisé l'attentat contre une mosquée chiite de Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, qui a coûté la vie à au moins 12 personnes, a annoncé vendredi dernier la police locale. L'organisation takfiriste Daesh a revendiqué l'attaque au colis piégé qui a ravagé la mosquée Sedokan jeudi dernier, à l'heure de la prière du midi pendant le mois sacré du Ramadan, faisant également au moins 58 blessés. Un Afghan du nom d'Abdelhamid Sangaryar a été arrêté, a indiqué à l'agence France Presse Asef Waziri, porte-parole de la police de la province de Balkh, dont Mazar-e-Sharif est la capitale. Il est le cerveau de l'attaque de jeudi dernier contre la mosquée, a affirmé Waziri, le présentant comme un élément important de Daesh. Il a joué un rôle crucial dans plusieurs attaques par le passé et avait toujours réussi à nous échapper. Mais cette fois-ci, nous l'avons arrêté lors d'une opération spéciale, a-t-il ajouté. Daesh a également revendiqué une autre attaque jeudi à Kunduz, dans le nord-est du pays, dans laquelle au moins 4 personnes ont été tuées et 18 autres blessées. La sécurité s'est améliorée en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans au mois d'août dernier, mais l'État islamique Khorasan, la branche régionale de Daesh, continue de mener des attaques meurtrières qui ciblent en particulier les chiites, considérés comme hérétiques par Daesh. La communauté chiite, qui est essentiellement d'ethnie Hazara, et représente entre 10 et 20% de la population afghane, environ 40 millions d'habitants, est persécutée de longue date dans ce pays par les extrémistes. Mardi, au moins 6 personnes avaient été tuées et 24 blessées dans 2 explosions ayant frappé une école pour des garçons d'un quartier chiite de Kaboul. Cette attaque n'a pas encore été revendiqué. Les talibans tentent de minimiser la menace de l'État islamique Khorasan et mènent une lutte sans pitié contre le groupe qu'ils combattent depuis des années. Ils ont multiplié les raids, notamment dans la province orientale de Nangarhar, et arrêté des centaines d'hommes accusés d'en faire partie. Ils assurent maintenant avoir vaincu l'État islamique Khorasan, mais les analystes estiment que le groupe extrémiste constitue toujours le principal défi sécuritaire pour le nouveau pouvoir en Afghanistan. Une dizaine de personnes, dont 5 soldats, ont été tuées ce dimanche 24 avril dans une attaque takfiriste contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso. Une dizaine de personnes, dont 5 soldats burkinabés, sont mortes dimanche 24 avril 2022 lors d'une attaque takfiriste contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales citées par l'agence France Presse. L'attaque de groupes armés terroristes a entraîné la mort d'une dizaine de personnes, dont 5 soldats, a indiqué une source sécuritaire. Les autres victimes sont des civils tués au cours de l'attaque, a-t-il précisé, soulignant que d'autres soldats ont été blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Un élu local a confirmé l'attaque, évoquant de son côté la mort de 4 civils. Le 8 avril, toujours dans le nord du pays, un détachement militaire avait été visé par une attaque tuant 12 soldats et 4 supplétifs civils de l'armée. Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est la cible depuis 2015 d'attaques djihadistes commises par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés. Début avril, le chef de l'État avait annoncé la création de comités locaux de dialogue avec des groupes djihadistes pour tenter d'enrayer les violences. L'État burkinabé ne discute toutefois pas directement avec les combattants des groupes armés. Ces comités sont composés de responsables religieux, de chefs coutumiers et traditionnels. En parallèle, l'armée burkinabé continue ses opérations militaires contre les takfiristes. Des leaders communautaires et des combattants de groupes armés locaux ont entamé des pourparlers à l'issue incertaine au Burkina Faso.